Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux questions liées à l'eau dans le cadre de la conférence sur le climat. Cette problématique de l'eau qui n'apparaissait pas dans le programme officiel jusqu'à il y a quelques semaines encore a finalement fait l'objet d'une journée cette semaine, mercredi. Un soulagement sans doute, une victoire peut-être, il n'en reste pas moins que l'eau, qui est un sujet important, n'apparaît qu'au second degré dans les enjeux prioritaires des négociations de la conférence de Paris, et ce alors qu'elle est touchée en priorité par le bouleversement climatique. À différents niveaux, quantité, qualité, événements extrêmes, autant de sujets qu'il est urgent d'étudier et surtout d'anticiper. L'eau, une question éminemment géopolitique. Pour en discuter, nos invités par téléphone, Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement, auteur de L'eau, un bien, un droit, tensions et opportunités aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Oui, bonjour Marie-France.
En studio, Fadi Comer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau, co-directeur d'un ouvrage qui vient de paraître en anglais, parrainé par l'UNESCO, Science Diplomacy and Transboundary Water Management, the Orontes River Case, consacré donc à la diplomatie et à la gestion des eaux transfrontalières, le cas du fleuve Oronte. Bonjour.
Bonjour.
Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Océan, biodiversité, migration, sécurité alimentaire sont des thèmes qui ne figurent pas ou faiblement au menu des négociations de la COP21. L'océan et l'eau douce ont tout de même eu leur journée cette semaine, mercredi. Soulagement ou victoire, c'est selon. Comment expliquer une place si faible faite à l'eau alors qu'évidemment l'impact du réchauffement climatique sur l'eau est une réalité et que l'on est là sans doute face à l'un des plus grands défis pour notre planète, Alexandre Tête?
Tout d'abord, l'eau est bien présente dans les rapports du GIEC, mais éclatée entre différents chapitres, que ce soit dans la fonte des glaciers, l'océanographie, etc. Et donc, il est vrai qu'à part un rapport technique consacré en 2008 au rapport entre l'eau et le climat, il n'y a pas de chapitre dédié à l'ensemble des problématiques liées à l'eau. C'est que nous, acteurs de l'eau, on voit la manière dont tous ces enjeux se recoupent, donc on est peut-être frappé par cette absence. Mais il faut bien avoir conscience que les négociations climatiques portent sur en fait des questions déjà très polarisantes, très techniques. Ainsi, le texte qui est actuellement en négociation comporte 4 chapitres sur les objectifs à l'horizon 2050, sur le financement de l'adaptation, sur les renégociations des objectifs de réduction par chaque pays. Et donc au final, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres thèmes qui sont abordés au cours de la conférence climat, et il n'y aura sans doute que quelques lignes, tout au mieux, à la déclaration finale le 11 décembre.
Fadi Comer, un commentaire sur la place de l'eau dans ces négociations sur le climat
bien
à Paris.
Bien sûr. Tout d'abord, l'objectif de la COP étant de traiter donc le sujet du réchauffement climatique entre les États qui polluent le plus, afin de fixer donc la température qui va augmenter d'année en année jusqu'à 2 degrés d'ici une vingtaine d'années. Mmh. Et les conséquences donc de cet accroissement de température, c'est principalement sur l'eau et l'alimentation. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, nous avons commencé à réfléchir ensemble avec les responsables du ministère de l'Environnement en France, ainsi que le réseau méditerranéen des organismes de bassin, de préparer un pacte qui s'intitule comme étant le pacte de Paris, afin de lancer une politique d'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers, les fleuves et les lacs et les aquifères, tout en sachant que cette problématique géopolitique et hydropolitique pourrait générer donc des conflits du fait de l'abaissement de la quantité des eaux dans les fleuves transfrontaliers et aussi de l'assèchement des fleuves comme le Nil par exemple qui traverse 9 pays. On sait très bien que l'Égypte sans le Nil ne pourrait pas être un pays viable. Voilà, donc cette déclaration, elle est basée sur la quantité et la qualité de l'eau qu'on doit préserver pour les générations futures afin d'assurer aux générations futures une alimentation saine dans le cadre des principes des Nations Unies, l'eau étant un bien commun pour les nations.
Franck Galland, un commentaire sur l'eau et la COP21.
Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est l'absence de traitement de la problématique eau souterraine. Le changement climatique a à l'évidence des conséquences sur les eaux de surface, baisse de la pluviométrie, évaporation, mais a de lourdes conséquences sur les eaux souterraines. Or, ces eaux souterraines, elles représentent 96% de l'eau douce aujourd'hui disponible sur la planète. Et que ces eaux souterraines sont en majorité des eaux transfrontalières. Un pays comme l'Arabie Saoudite en dépend à 80%. La Libye en dépend à 70%. Et chaque année, on a malheureusement depuis une trentaine d'années une exploitation quasi minière de ces eaux souterraines. Et il faut savoir que bon an mal an, chaque année, c'est 800 milliards de mètres cubes qui sont extraits des sous-sols. Donc là, on peut effectivement regretter que ces points ne soient pas abordés. Mais bon, COP21 aborde tellement de sujets qu'on ne peut pas tout traiter. Mais il aurait été particulièrement judicieux que ça le soit.
Qu'est-ce que l'on peut dire, Alexandre Tête, des priorités liées à l'eau aujourd'hui? On abordera bien évidemment ensuite la question du Proche-Orient avec Fadi Comer, qui est sans doute le Proche-Orient, l'une des régions du monde les plus impactées par le réchauffement climatique. Donc les priorités liées à l'eau aujourd'hui, pour en énumérer quelques-unes?
Il est vrai qu'aujourd'hui, je crois que le climat est vraiment vu, en tout cas dans le monde de l'eau, comme un horizon, en fait, qui doit être intégré de manière beaucoup plus systématique. Et une des autres raisons qui explique le changement climatique, que la COP n'intègre pas vraiment l'eau, c'est qu'en fait, l'eau est à la croisée de multiples sujets. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer aujourd'hui les secteurs de l'eau sans impact sur le secteur de l'énergie, sans impact sur la production agricole, etc. Et ce triptyque eau-énergie-agriculture a été encore compliqué par le changement climatique, parce que, comme l'a expliqué Fadi Comer, il est vrai que beaucoup de manifestations du changement climatique se passent par l'eau. Et pour rendre sans doute ces deux mondes un peu plus compatibles, il y a un vrai travail de rapprochement des outils et des concepts. C'est que pour l'instant, le monde de l'eau fait un effort, entre guillemets, pour se rapprocher du monde du climat, mais il le fait aussi avec ses propres outils. Et par exemple, la gestion par bassin, qui a une vraie pertinence pour l'eau, n'est peut-être pas forcément adaptée aux politiques climatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a vraiment un travail de rapprochement conceptuel d'instruments à faire entre les deux mondes. Si on parle du bassin méditerranéen, par exemple, on s'aperçoit que c'est une zone qui est déjà extrêmement vulnérable à des risques naturels, comme les canicules, les sécheresses, les inondations, les feux de forêt, que le changement climatique va venir exacerber tous ces domaines, accroissant également des pertes de biodiversité marine, terrestre, la diversification naturelle accélérée par le changement climatique progresse également, c'est un sujet de préoccupation constante. Et donc ça, ce sont les impacts visibles, scientifiques, et ensuite les impacts socio-économiques, pour ne parler que de l'eau. C'est vrai qu'on estime aujourd'hui environ 80 millions de personnes autour du bassin méditerranéen qui souffrent de pénurie hydrique. Sans doute, si rien n'est fait, il serait autour de 280 millions, c'est les derniers chiffres, à l'horizon 2050.
Fadi Comer, un commentaire sur ces chiffres. Il est évident que le problème de l'eau dans la région proche-orientale est un problème qui apparaît avec une acuité toute particulière.
Oui, je rejoins Alexandre Tête dans la présentation des impacts qui agissent négativement sur la gestion de l'eau, ainsi que la problématique des eaux souterraines qui a été abordée par Franck Galland. Je voudrais donc ajouter que l'impact serait négatif et affectera la gestion de la demande. Or, cette gestion de la demande dans une région, donc que ça soit le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen ou bien la Terre, dans une région où on assiste à une explosion démographique, un transfert de population d'une région à une autre, va affecter cette gestion de la demande. J'ajoute à ça le réchauffement climatique qui va affecter la demande jusqu'à 30% en moins dans les pays du sud-est du bassin méditerranéen, et que cette demande-là ne serait donc satisfaite que si on adopte un mode de gestion qui est basé sur l'intégration du cycle de l'eau dans le système d'exploitation, donc des secteurs eau potable, irrigation et assainissement. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est que l'intégration donc du cycle de l'eau dans la gestion est une intégration donc fragmentée, qui n'est pas une intégration qui pourrait satisfaire les besoins des populations. Il va falloir donc assurer donc une gestion globale, tout en considérant les eaux non conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer, telles que aussi le traitement des eaux usées et leur utilisation pour l'irrigation, sachant que l'irrigation consomme 80% de l'eau renouvelable dans les pays du bassin méditerranéen. C'est la raison pour laquelle le triptyque eau-énergie en alimentation, on ne peut plus le dissocier. Si on a besoin donc de dessaler de l'eau de mer pour satisfaire les besoins des pays du Golfe ou bien les pays de la Méditerranée du Sud, il va falloir mobiliser une quantité d'énergie énorme, plus de 3 kWh par mètre cube d'eau dessalée. On sait très bien que d'ici une quarantaine d'années, on arrive à terme dans le cadre des énergies, les énergies fossiles. Il va falloir se rabattre sur les énergies renouvelables, mais le rendement, comment assurer donc un rendement et utiliser les énergies renouvelables pour satisfaire et la demande industrielle de l'énergie et la demande du dessalement de l'eau de mer ou bien du traitement des eaux usées et du pompage de l'eau potable. On se rabat sur le nucléaire, sur le gaz qu'on promet actuellement. C'est la problématique actuelle. Donc on peut plus dissocier le triptyque eau, énergie, alimentation. Les conflits dans la région donc vont augmenter si on n'arrive pas à signer un pacte ensemble qui est basé sur l'hydrodiplomatie, donc la diplomatie de l'eau, afin de commencer à gérer les bassins d'eau et les bassins fluviaux d'une façon généralisée, en impliquant tous les pays dans cette gestion. Et c'est une gestion qui devrait aboutir à des bienfaits. C'est des bienfaits qui pourraient donc être perçus d'ici une vingtaine d'années, donc pour les générations futures.
Alors on parlera du cas de l'Oronte, Fadi Comer, bien sûr, qui est donc l'un des grands fleuves de la région, au même titre que d'autres, pour n'en citer que quelques-uns, le Jourdain, le Nahr el-Kébir, le Tigre, le Frat, le Nil que vous avez évoqué. Franck Galland a un commentaire sur cette notion de conflictualité, de tension, de stress hydrique dans la région.
On peut être à juste titre très inquiet, parce que ces pays du sud et de l'est de la Méditerranée, il faut savoir qu'ils regroupent aujourd'hui 60% de la population mondiale la plus faiblement pourvue en eau, c'est-à-dire dans notre jargon, une population qui dispose de moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de réserve.
1000 mètres cubes étant la limite
barrière
fixée.
De stress hydrique, voilà. Effectivement, en deçà de laquelle une vie sociale, une vie économique est difficile. Prenez simplement le Moyen-Orient, c'est 1,1% des ressources mondiales d'eau naturelle renouvelable. Donc on a déjà une situation de stress hydrique structurelle. Si vous rajoutez à cela le changement climatique, sur cette zone des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, il est par exemple estimé qu'à 2050, on aurait une augmentation de température de 2 à 4 degrés. Donc les effets sur les évaporations notamment seront très importants. Vous aurez des baisses de pluviométrie aux alentours de 15 à 30%. Donc ça va bien évidemment encore accentuer le stress. Et puis, puisque je suis pourtant optimiste de cœur mais pessimiste de raison, si vous rajoutez les conséquences par exemple des printemps arabes sur les infrastructures en eau, on avait des pays qui étaient déjà sous très forte tension, qui étaient quasiment à flux tendu.
Vous pensez
à... je pense par exemple à des pays comme la Tunisie, qui ont perdu beaucoup d'ingénieurs et techniciens très très compétents, des problématiques d'investissement qui ne sont pas faits ou qui sont différées, des problématiques de maintenance d'infrastructures. Et encore, la Tunisie, ce grand pays des et qu'on peut envier, est très loin des situations rencontrées en Libye, par exemple, avec des infrastructures qui sont l'objet aujourd'hui des pires chantages, voire des pires sabotages de certains clans affiliés à l'extrémisme islamiste. Et puis que dire de la Syrie, hein, qui, rappelons-le, est un pays qui subit une guerre civile atroce depuis environ 4 ans. Juste pour vous donner une idée, un rapport de la coopération suisse paru en 2014 estimait, par exemple, qu'en 2010, en 95% des zones urbaines avaient accès à l'eau potable, 85% des zones rurales, bon, avec en gros 50 à 75 litres par jour et par habitant disponible. Bon, c'est tombé à 20 litres par habitant et par jour disponible, et en plus avec une qualité d'eau qui est absolument lamentable, et donc avec des maladies hydriques qui n'existaient plus et qui resurgissent, avec des infrastructures qui font l'objet de ciblage systématique des différents belligérants. Donc voilà, typiquement, un pays qui était déjà sous très forte tension, un pays, rappelons-le, qui est très dépendant pour son alimentation en eau de la Turquie voisine, et qui aujourd'hui se retrouve avec une infrastructure complètement dégradée, et pour longtemps, parce qu'il va falloir mettre beaucoup de temps, même si les armes cessaient demain matin, pour reconstruire. Donc voilà des facteurs qui viennent encore un peu plus exacerber les tensions actuelles et bien évidemment futures.
Alors, exacerbé, parce que c'est vrai, il est vrai que les situations sont évidemment différentes. Vous parliez de la Syrie en zone de conflit. En tout cas, ne serait-ce qu'en image, je trouve assez important de donner les exemples suivants quant aux conséquences du réchauffement climatique dans la région proche-orientale. Je parle sous votre contrôle aux uns et aux autres. L'équivalent de la mer morte qui aurait disparu entre 2003 et 2009. Alors là, c'est pour parler des différences de situation. En Asie, on parle de montée des eaux. Proche-Orient, il est plutôt question de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Fadi Khomer, de raréfaction de l'eau dans les fleuves. Et pour ne parler que des bassins du Tigre et de l'Euphrate, ils ont subi après l'Inde, ou ils subissent après l'Inde, la deuxième plus rapide perte d'eau douce qu'enregistre la planète. Je pense que ce sont des exemples qu'il est important de citer pour bien visualiser l'impact du réchauffement climatique sur les questions liées à l'eau, Alexandre Tête.
Complètement, hein. On le disait tout à l'heure, l'eau est un révélateur du changement climatique. D'ailleurs, si la place de l'eau n'est pas très importante dans la COP, elle l'est, je vous promets, au sein de la société civile. Quand vous regardez l'ensemble des projets d'adaptation développés en Afrique, plus de 9 sur 10 ont une composante eau. Hein. Et donc, même si le 2 décembre, c'est la première fois qu'une demi-journée était consacrée à l'eau dans une COP, hein, depuis le début des COP, il y avait aussi dans ce qu'on appelle l'espace génération climat, l'espace société civile, 60 manifestations sur l'eau et le climat. Donc c'est un sujet qui est vraiment bien vu par la société civile. Alors ensuite, ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'en plus, l'espace méditerranéen est un espace en fait qui se réchauffe plus vite que le reste du monde. Depuis 25 ans, l'augmentation de température a été d'environ 1 degré, alors que l'ensemble du réchauffement de la planète, c'est-à-dire à l'échelle globale, a été de 1 degré, mais depuis 1900, comparé aux décennies précédentes. Donc il y a quand même un effet loupe du changement climatique, on parle bien d'un point chaud, dont les effets sont très mesurables. Alors, il est toujours délicat de dire que c'est à cause du changement climatique, mais par exemple, au Maroc, les précipitations ont baissé de 20% entre 1980 et 2010 par rapport aux décennies précédentes. Ça pose des problèmes drastiques pour la production électrique, pour l'agriculture. Et ce sont deux secteurs qui sont au cœur de problématiques sociales, l'alimentation, l'accès à l'énergie. Vous voyez ? Donc oui, ça touche des sujets qui sont la base de la stabilité sociale et politique, le partage de ressources, surtout lorsqu'elles sont insuffisantes. Et les changements climatiques exacerbent la pression sur ces ressources de base que sont l'énergie, l'eau, la nourriture.
Fadi Khomer, vous souhaitez rajouter quelque chose à cette augmentation, peut-être accélération du réchauffement climatique dans la région? Alors évidemment, avec des périodes de chaleur et de sécheresse qui sont beaucoup plus longues qu'elles n'étaient auparavant. Le Liban est préservé par rapport à cela ou...
En fait, le Liban n'est pas préservé, il n'y a aucun pays qui sera préservé, mais le Liban, sa situation serait bien meilleure que d'autres pays dans la région. Je pense aux pays qui se partagent le bassin du Jourdain, je pense à la Palestine, je pense à la Jordanie. Mais je peux vous assurer que le sujet de l'eau est actuellement un sujet problématique qui figure sur les agendas diplomatiques de tous les leaders de la région du Moyen-Orient. Car avec le changement climatique et l'importance des grands bassins hydrauliques tels que le Nil, tels que l'Euphrate, le bassin du Jourdain, quand il y aurait donc une incidence qui va assécher petit à petit donc les cours d'eau et qui va rendre la région du Moyen-Orient une région semi-aride, il y a un grand nombre de populations qui vont quitter les lieux et émigrer. Ils vont émigrer où ? Ils vont rebasculer sur la rive nord de la Méditerranée. Je vous donne un exemple. Si jamais, avec tous les scénarios de la commission du GIEC, qui ont prouvé que le bassin du Nil et les glaciers qui se situent donc du côté amont du bassin du Nil vont graduellement subir un phénomène de fonte de neige, de fonte de glaciers, ce bassin du Nil va directement donc lâcher des eaux abondantes dans le delta du Nil, ce qui va engendrer une masse de population qui a été définie à peu près à 10 millions de personnes de quitter cette région-là et d'aller ailleurs chercher une vie nouvelle. Le danger étant lié donc à la sécurité des populations et à la sécurité de la nourriture. Ça, c'est l'objectif primordial que nous avons donc essayé de lancer dans l'environnement donc du Moyen-Orient afin que les populations puissent se mettre d'accord sur une meilleure gestion des bassins transfrontaliers. Une meilleure gestion des bassins transfrontaliers devrait donc assurer que tous les pays se mettent d'accord sur des projets en commun qui pourraient engendrer donc des projets bénéfiques. Pour les gens.
Nous parlerons, Fadi Khomer, voilà, du bassin, justement, de l'Oronte, pour démarrer la deuxième partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Alexandre Tête, Fadi Khomer et Franck Galland, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les questions liées à l'eau dans le cadre de la conférence sur le climat. Nous retrouvons nos invités Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement. Fadi Comer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau. Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau. Fadi Comer, sur les questions liées à l'hydrodiplomatie, le cas de l'Euronte fait l'objet de votre ouvrage qui a été parrainé par l'UNESCO, Science Diplomacy and Transboundary Water Management, The Orontes River Case, donc consacré à la diplomatie et à la gestion des eaux transfrontalières, le cas du fleuve Euronte. Il met en scène trois pays, voire quatre, si l'on tient compte de la guerre avec Israël en 2006, l'intervention israélienne. Trois pays donc, le Liban, où l'Euronte prend sa source, la Syrie en guerre depuis quatre ans, et la Turquie. En quoi l'hydrodiplomatie, comme vous l'appelez, est-elle centrale dans le cas proche-oriental? De quoi est-il question avec le bassin de l'Euronte? Et sur quoi finalement repose cette sorte de magie diplomatique à laquelle les gouvernements, dont le vôtre, libanais, sont parvenus? Fadi Comer.
L'hydrodiplomatie, en fait, c'est un concept qui est né d'une longue expérience que j'ai personnellement connue en tant que négociateur expert. C'est en fait un principe qui a l'ambition de construire la paix entre les pays riverains qui se partagent un même bassin transfrontalier. L'objectif étant clair, c'est de créer une culture de paix dans une région qui manque de développement, qui connaît des conflits interminables, et que des technocrates comme nous, on a pensé donc créer une dynamique afin de sécuriser cette eau-là pour les générations futures. L'hydrodiplomatie repose sur un mode de gestion que j'appelle le mode de gestion par coopération régionale et non sécuritaire. Un mode de coopération régionale crée une dynamique de développement économique au niveau d'un bassin transfrontalier, donc avec un retour sur l'économie des pays qui sont concernés, et les pays riverains donc seraient des catalyseurs de paix plutôt que des outils pour préparer la guerre entre eux. Les bienfaits de l'hydrodiplomatie sont énormes, tels que des projets de barrages en commun pour assurer la gestion à l'amont des bassins transfrontaliers. Deuxièmement, des projets d'énergie gratuite, tels que l'hydroélectricité qui ne pollue pas. Et cette énergie pourrait être échangée entre les pays, comme le principe du transfert de l'eau d'un pays à un autre. Et troisièmement, elle peut créer aussi l'hydrodiplomatie des bienfaits qui sont dus à la stabilité politique de ces nations. Donc nous avons voulu donc adopter des textes réglementaires qui ont été définis par les organismes internationaux tels que l'ONU, tels que l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée, et le texte prioritaire étant la Convention des Nations Unies de 1997, qui repose sur le principe du partage équitable et de l'utilisation raisonnable de l'eau. Principe très facile à adopter, si vraiment donc il y a la bonne volonté des décideurs politiques. Tout d'abord, c'est quoi le partage équitable? Quand il s'agit d'un bassin transfrontalier, comme le Jourdain, il y a cinq pays qui se partagent le Jourdain. On ne peut pas allouer à un pays donc une quote-part de 30 litres par jour par personne, c'est le cas de la Palestine. La Jordanie, 60 litres par jour par personne. Israël, 350 jusqu'à 400 litres par jour par personne, et le Liban 150 litres par jour par personne. Partons du principe que l'eau ne connaît pas les frontières, l'eau doit lier les populations, rassembler les hommes, tout en sachant qu'il y a des différences dans la région sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan ethnique. Mmh. Il va falloir partager cette eau en donnant une quote-part similaire à tous les pays. C'est la raison pour laquelle on a développé dans le cadre de l'hydrodiplomatie la notion des nouvelles masses d'eau. Fixons la quote-part pour l'eau potable jusqu'à 200 litres par jour par personne. Fixons pour l'irrigation la quote-part en utilisant des technologies nouvelles telles que le goutte-à-goutte jusqu'à 5000 à 6000 mètres cubes par hectare. Et puis utilisons, pourquoi pas, les eaux usées après le traitement en tant qu'un complément des eaux non conventionnelles pour satisfaire la demande. J'ajoute à cela, dans la problématique du Jourdain, un nouveau projet. Aussi sur le plan sécuritaire, il va falloir en parler de ce nouveau projet, c'est le lien et le raccord entre la mer Rouge et la mer Morte. Cette conduite, qui devrait être sécurisée aussi, pourrait générer un apport supplémentaire d'à peu près 1 milliard de mètres cubes d'eau. Ce milliard supplémentaire pourrait être aussi réparti entre les pays riverains afin de sécuriser une eau abondante. Et de cette façon-là, on pourrait rendre aux pays arabes les territoires occupés, tels que le plateau du Golan, et c'est là où réside la militarisation du conflit arabo-israélien sur le Jourdain. On pourrait rendre au Liban les hameaux de Sheba aussi, d'où se trouvent les sources du Jourdain, et on pourrait aussi assurer cette eau abondante à tous les pays qui se partagent ce bassin, la Jordanie, la Palestine et la Syrie. Donc il va falloir, dans le cadre d'une coopération régionale, être innovant et se baser sur des textes réglementaires qui prennent la paix et non pas la militarisation et la sécurisation des bassins.
Ce que j'entends aussi, c'est que quand les choses sont claires, avec des chiffres bien précis pour chacun, c'est tout de même plus facile de travailler comme cela. Alors la question est, est-ce que ce qui s'est fait sur le bassin de l'Oronte est transposable sur d'autres bassins, le Nahr el-Kébir, le Nil? On sent quand même qu'il y a un mouvement d'hydrodiplomatie. Il y a eu des accords sur le Nil entre l'Égypte et l'Éthiopie, des accords qui ont nécessité de longues années de négociations, peut-être beaucoup de temps perdu aussi, mais les choses semblent avancer dans ce sens d'une hydrodiplomatie, Franck Galland.
Si ça a été possible sur l'Oronte, avec le contexte qu'on connaît, ça doit être possible ailleurs. Vous l'avez rappelé, Marie-France, le 23 mars dernier, l'Éthiopie, l'Égypte, mais aussi le Soudan se mettaient autour d'une table pour négocier leur avenir commun en matière de partage des eaux du Nil. Et ce, dans le cadre de l'édification du barrage Renaissance qui devrait être opérationnel en 2017 et qui posait, jusqu'à la signature de cet accord, une lourde menace pour les intérêts égyptiens. Donc moi, je crois beaucoup au respect des textes, au partage des données, mais aussi au partage des infrastructures. Je crois qu'il y a un très bel avenir sur ces grandes conduites qui vont permettre de sécuriser en eau des villes en traversant des frontières. Fadi vient de le rappeler, ce canal Mer Morte-Mar Rouge, qui va recréer une colonne vertébrale à cette région. On peut aussi citer la conduite d'Izi Aman, qui permet aujourd'hui d'alimenter Aman en eau à raison de 100 millions de mètres cubes par an, et ce pendant les 50 prochaines années, parce que pour pouvoir alimenter aujourd'hui Aman en eau, il faut faire venir cette eau qui est pompée dans la nappe de Dizi à la frontière jordano-saoudienne et l'acheminer sur plus de 400 km. Donc ces infrastructures-là, elles seront vitales. Elles devront être sécurisées contre la malveillance d'origine criminelle ou d'origine terroriste. Et de la même manière, dans le Golfe, ces grandes water transmission lines alimentent en eau Riyad à partir d'eau dessalée sur plus de 400 km pour alimenter une ville comme Riyad. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus rien dans les nappes et que les nappes sont salinisées, vous devez d'utiliser de plus en plus d'eau dessalée qui vient de la côte est et qui est acheminée sur 400 km par un travers un réseau de stations de pompage jusqu'à cette ville de Riyad. Donc on voit bien que ces projets sont structurants, et ils sont d'autant plus structurants quand on crée des infrastructures de sécurité. Et le plus bel exemple, c'est ce qui pourrait être effectivement constitué au niveau des pays du Conseil de coopération du Golfe, où il est question d'une infrastructure qui partirait d'Oman et qui remonterait jusqu'en Arabie Saoudite et même jusqu'à Bahreïn, jusqu'à Koweït, qui serait en fait une infrastructure de secours, un water grid, un peu sur le modèle d'un power grid, et qui viserait justement à offrir une possibilité d'ultime secours au cas où les stations de dessalement seraient menacées. Parce qu'une station de dessalement, c'est très bien quand ça marche, mais en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle, plus de stations dessalement. Et quand vous savez que des pays comme le Qatar aujourd'hui sont à 2 jours de réserve en eau, c'est-à-dire que 99% de leur eau vient du dessalement, et le moindre problème sur une station de dessalement, plus d'eau au Qatar. Donc là, il faut des interconnexions et il faut du secours. Donc la coopération, l'hydrodiplomatie passe par là, passe par ces infrastructures de secours et ces grandes conduites transfrontalières.
En tout cas, ce que je retiens pour aller plus loin peut-être avec vous, Alexandre Tête, c'est la nécessité d'anticiper sur l'eau. Vous souhaitez réagir sur ce qui vient d'être dit en termes d'hydrodiplomatie au Proche-Orient ?
Bien sûr, l'expérience qui a été menée sur l'Europe, hein, donc Rivera avec la Turquie, le Liban, la Syrie, est précieuse parce que justement le contexte est difficile. Et pour autant, on s'aperçoit qu'il est compliqué de généraliser ou d'être forcément optimiste dans tous les contextes. Et on voit que les histoires des coopérations sont très variées. Par exemple, dans le cas de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, c'est une expertise scientifique qui a été reconnue comme légitime par les pays riverains qui a fait que il y a eu une coopération lancée sur la nappe du système aquifère du Sahara septentrional. À l'inverse, sur le fleuve de l'Indus, c'est une impulsion politique de très haut niveau, un ancien président de la Banque mondiale, qui a forcé finalement l'Inde et le Pakistan à se mettre autour de la table. Finalement, ce que j'ai envie de dire, et l'exemple développé par Picomer est très parlant, c'est que les outils existent, les outils transfrontaliers, les concepts existent, c'est bien la volonté politique qui est déterminante. Et une autre raison d'être à mon avis optimiste, c'est, vous parliez de l'exemple du Nil, c'est vrai que beaucoup présentaient le bassin du Nil comme un des plus potentiellement conflictuels au monde, et ce préaccord qui a été obtenu en mars 2015 entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte montre au contraire que l'intérêt à coopérer l'emporte sur des représentations et sur les conflits potentiels. En revanche, il faut bien avoir conscience que l'eau reste une source majeure d'instabilité sociale et politique à l'échelle locale, quotidienne dans beaucoup de pays, mais qu'à l'échelle transfrontalière, sans doute il faut d'abord voir l'eau comme un enjeu de développement avant un enjeu de sécurité, mais un enjeu de développement qui a une dimension sécuritaire évidente.
Et alors, pour en revenir au cas de l'Oronte, évidemment, sans sortir la boule de cristal, Fadi Kemer, il n'est pas question de ça, mais c'est vrai que vous parliez de projets structurants, que les outils existent et qu'il faut de la volonté politique pour parvenir à des accords comme celui-là, avec les incertitudes après ça de l'actualité, notamment sur la Syrie, où on a entendu dire que l'opposition, si elle l'emportait, remettrait en question ces accords. Donc voilà, tout ça est une question de volonté politique, d'intérêt de développement, comme l'évoquait à l'instant Alexandre Tête. Enfin, beaucoup de données qui viennent se rassembler sur des projets comme celui-là.
Tout d'abord, je voudrais rappeler que l'expérience réussie de l'Oronte a suscité l'intérêt de l'UNESCO. D'où le fait d'avoir publié, adopté ce livre. L'UNESCO, qui est une plateforme pour contribuer à la consolider la paix partout dans le monde, une plateforme culturelle. Je voudrais aussi rappeler que ce livre sera lancé dans le cadre d'un colloque au Sénat. Et ce colloque va prendre en considération toutes les problématiques qui ont été posées aujourd'hui, maintenant, par Franck Gallant, Alexandre Tête, et qui concernent les bassins transfrontaliers ainsi que les aquifères. Deuxièmement, il y a eu trois attributs qui ont fait que cette expérience a pu être une expérience réussie. Tout d'abord, la gouvernance, qui consistait à utiliser des textes réglementaires, tels que les textes promulgués par les Nations Unies, les conventions donc qui lient les pays dans un partage équitable et raisonnable. Deuxièmement, et j'attache une grande importance à cette composante, c'est la composante technologique. L'utilisation d'outils technologiques afin de bien définir les bassins versants dans chaque pays, traverse l'Oronte, et afin aussi d'arriver à réaliser des ouvrages de retenue pour faciliter l'accès à la population à l'eau potable et à l'irrigation. La troisième composante, c'est la composante politique. S'il n'y a pas un consensus politique entre les gouvernements des pays riverains, on ne pourrait pas arriver à concrétiser un accord équitable pour ces pays-là. Donc, cette expérience réussie, à mon avis, comme les gouvernements du Liban et de la Syrie ont promulgué et ratifié les conventions des Nations Unies, je crois que personne n'a intérêt à revenir au point zéro et relancer des négociations de nouveau sur l'Oronte. Concernant la Turquie, tout en sachant que la Turquie et Israël n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies, mais la Turquie a voulu adopter donc les principes de cette convention, et nous avons essayé d'aider à réaliser un arrangement entre la Syrie et la Turquie sur le cours d'eau international qui est l'Ifrin, qui traverse les deux pays, la Syrie et la Turquie, et la Turquie a un intérêt vital dans ce cours d'eau. Donc on a fait des négociations tripartites qui ont abouti à signer une convention. Cette convention a commencé à être appliquée et les infrastructures sur le sol libanais commencent à être réalisées. Il y a deux barrages, dont un qui a démarré et un autre avec une station d'alimentation en eau potable pour les régions de la grande partie de la plaine de la Beka. plus sécuriser l'électricité par le moyen de l'hydroélectricité qui se situe à l'aval de ce barrage.
Alors, pour terminer, je rassemble un peu les réflexions. Prise de conscience, évidemment, chaque jour plus importante quant à l'importance des questions liées à l'eau. Franck Galland, à Genève, création d'une commission sur l'eau. Enfin, en tout cas, l'idée a été lancée. Je ne sais pas où on en est, vous allez nous le dire. Et puis, on terminera peut-être sur ce nouveau débat qui émerge, et on l'a senti dans ce débat aujourd'hui de géopolitique. Est-ce qu'il faut traiter l'eau comme une question de sécurité? Qu'est-ce que cela implique? La commission sur l'eau lancée à Genève, Franck Galland.
Oui, le 15 novembre dernier, à Genève, dans le cadre de la Semaine de la Paix, était lancé le Global High Level Panel for Water and Peace, donc un panel de haut niveau sur eau et paix, eau et sécurité, eau et conflit. Donc j'ai la chance de représenter la France dans ce panel. L'objectif, c'est que sur les deux prochaines années, nous puissions pouvoir fournir au gouvernement suisse un certain nombre de pistes sur la protection des infrastructures pendant les conflits, sur l'eau comme thème fédérateur en prévention de conflits, et sur l'eau comme thème de solution de sortie de crise politico-militaire. Et dans ce contexte, effectivement, beaucoup d'échanges ont commencé et vont se dérouler sur les deux prochaines années avec une implication notamment très très forte de pays comme le Sénégal, qui en matière de coopération transfrontalière est assez remarquable. Donc voilà pour cette initiative qui arrive à un très très bon moment. Mmh. Quant à votre question, Marie-France, sur la sécurité des infrastructures, effectivement, l'eau peut être facteur de conflit, de déstabilisation ou de coopération, mais le problème aujourd'hui, c'est que dans certaines régions du monde, et en particulier au Moyen-Orient, on fait la guerre contre l'eau. J'en veux pour preuve que la stratégie de déploiement de Daesh se fait sur les fleuves. Que en février 2014, les militants de Daesh, qui ne s'appelaient pas d'ailleurs Daesh à cette époque, ont d'abord ciblé en Irak le barrage de Fallujah. Et puis les premières frappes en fait interviennent, les frappes américaines interviennent en août 2014 pour pouvoir désenclaver le barrage de Mossoul sur le Tigre qui avait été prise effectivement par les factions de Daesh, qui est le plus grand d'Irak, qui était déjà en très très mauvais état, mais qui peut potentiellement créer un tsunami urbain sur la ville de Mossoul où réside quand même 1,5 million d'habitants. Donc il faut absolument protéger ces infrastructures existantes, protéger les infrastructures de coopération que je vous décrivais tout à l'heure, qui traverseront des frontières, parce que c'est éminemment nécessaire aujourd'hui, et protéger et favoriser la mise en place, par exemple, de réserves stratégiques communes. Il est intéressant de voir, par exemple, que le plus grand réservoir au monde est en train d'être construit à Jeddah, qu'au Qatar, pour pouvoir passer de 2 jours de réserve en eau à 7 jours de réserve en eau, vous avez aujourd'hui un programme de méga réservoir. Vous avez des problématiques de recharge artificielle de nappe et de stockage stratégique qui sont en train d'être lancées aux Émirats Arabes Unis. Donc, tout ce qui va, d'un point de vue structurel, dans une logique de partage, de dotation de moyens de secours en commun, va, en toute logique, vers plus de coopération, plus de paix. Et à l'inverse, malheureusement, dans cette partie du monde, comme sur le sol français et sur Paris endeuillé depuis le 13 novembre, vous avez un certain nombre de groupes qui veulent ruiner les économies, ruiner les populations. Et donc, ces infrastructures essentielles à la vie, va falloir mieux les protéger à l'avenir.
Fadi Khomer, en conclusion, très rapidement.
Pour conclure, l'hydrodiplomatie est le concept, à mon avis, qui fait oublier aux pays qui sont les plus vulnérables en matière de gestion d'eau. Et il fait oublier à ces pays-là l'obsession hydraulique dans laquelle ils vivent. Il favorise la coopération entre les institutions qui sont impliquées, en particulier les organismes de bassin, et aussi il facilite le transfert du savoir-faire et des expériences entre États. Faut-il sécuriser les infrastructures? Bien sûr, il va falloir le faire contre toute attaque accidentelle ou bien intentionnelle qui pourrait se produire.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Nos invités, Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement, auteur de L'eau, un bien, un droit, tensions et opportunités aux éditions L'Harmattan. Merci aussi à Fadi Khomer, professeur des universités, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère libanais de l'énergie et de l'eau, co-directeur d'un ouvrage qui vient donc de paraître en anglais, parrainé par l'UNESCO, Science, Diplomacy and Transboundary Water Management, The Orontes River Case, consacré donc à la diplomatie et à la gestion des eaux transfrontalières, le cas du fleuve Oronte. Et Franck Galland, expert des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la notion d'ennemi dans les relations internationales, une notion de plus en plus confuse qui soulève la question « Qui est l'ennemi ?» À demain.